Bien, la formule de bienvenue du Père Xavier Digeon, c'était « Ami du soir, bonsoir ». Voilà. Alors, ce soir, c'est un genre littéraire un peu différent, mais qui correspond au séminaire de bioéthique, puisque vous avez devant vous, soit en feuille de route, soit dans le numéro de la nouvelle revue théologique, le résultat d'une recherche ou de plusieurs exposés sur ce que j'ai appelé ou que j'ai développé sur l'embryon, le corps embryonnaire. Il s'agit ce soir, en nous aidant de deux petites publications de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc des éléments du magistère de l'Église, de les approcher de manière peut-être personnelle, original, ces deux documents, Donum Vitae, c'est pas énorme, vous voyez, et Dignitas Personae, et qui sont des documents majeurs de la réflexion de l'Église à propos des problèmes de bioéthique, et spécialement de l'origine. Et en guise d'introduction, que vous voyez peut-être à la page 606 dans les articles là, de la Nouvelle Revue Théologique. Je dis ceci, il est important de parler du statut de l'embryon pour un premier motif, d'abord pour les embryons que nous rencontrons éventuellement, c'est-à-dire pour les situations pastorales auxquelles nous sommes confrontés, en mémoire aussi de ce que nous avons tous été, c'est-à-dire un embryon un jour. Il est important de, certains disent, de tourner autour du statut de l'embryon, mais on ne tourne pas seulement en rond, on tourne en spirale, à la manière de la pensée et de la réflexion de Jean-Paul II, quand il était encore vivant. On tourne en spirale pour petit à petit arriver à dire quelque chose qui soit vrai, sans mettre la main totalement dessus, quelque chose qui soit vrai sur le statut de l'embryon, sur l'embryon humain. Donc c'est un des efforts ce soir au niveau de la compréhension et au niveau des documents, un des efforts de l'homme et de l'Église pour dénoncer la position de nombreux comités d'éthique qui disent ceci, comme le statut de l'embryon c'est une énigme ou un mystère pour certains, bien il n'y a rien moyen de dire là-dessus de sérieux, de sûr, de fort, et donc c'est une impasse réflexive. Eh bien non, ça ne peut pas être une impasse réflexive, même si on ne met pas la dernière main sur ce statut, il faut rechercher qui est cet embryon. Donc c'est une thématique complexe, et ce que je voudrais expliquer, c'est qu'à l'intérieur de la recherche de l'Église, ce n'est pas une impasse. Et la question qui est posée souvent, de manière un peu radical, c'est oui ou c'est non, c'est y a-t-il un statut personnel pour l'embryon humain? Dans le premier document, Donum Vitae, que j'examine, où il y a des questions-réponses sur des tas de thématiques, de la mère porteuse, sur la congélation des embryons, etc., il ne faut pas se fier à la difficulté des questions-réponses, pas se faire illusion. Il y a toute une anthropologie dans l'introduction, dans les points 1 à 5, c'est-à-dire une vision de l'homme qui est offerte. Cette vision de l'homme s'appuie principalement sur le dernier concile Vatican II, dont nous fêtons l'anniversaire, et qui exprime aussi en termes personnalistes ce qu'est tout être humain. Quand on dit l'être humain, on ne dit pas la personne. On peut faire un signe d'égalité, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on dit personne, on fait allusion à un système, soit philosophique, le personnalisme, soit en théologie, à cette réalité interpersonnelle du peuple de Dieu, ou bien plus profondément, cette réalité interpersonnelle des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc c'est un terme plus chargé, théologiquement plus enrichi dans l'histoire de l'Église. Dans ce document, il y a une vision de l'homme comme personne. On pourrait dire d'abord qu'il n'appartient pas à l'ordre scientifique, ni juridique, ni psychologique, de définir l'être humain. En philosophie, oui, on approche, mais il appartient à toutes ces sciences de le reconnaître. Un argument de type théologique, c'est de dire que l'homme créé par Dieu est une personne en alliance avec lui. Et dans les documents même antérieurs à ces deux petits documents, il est dit, que ce soit par Jean 23 ou bien par Paul VI après, que si la vie humaine est sacrée, c'est pas au sens de certaines religions, maya ou aztèque ou hindou, mais si la vie humaine est sacrée, c'est qu'elle comporte aussi, dès l'origine, l'action créatrice de Dieu. Action créatrice de Dieu qui demeure pour toujours, Dieu, en relation spéciale avec sa créature. Ou que toute créature demeure en relation spéciale avec son créateur, qui est son unique fin. C'est ce qui est dit dans l'introduction de Donum Vitae. Donc deux points fondamentaux apparaissent qui disent ce qu'est l'homme dans ce document. D'abord le fait que l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même. L'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même. Et d'autres affirmations de type anthropologique, c'est que l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur, comme disent les versets de la Genèse. Ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais parce qu'il y a un acte de création qui relie aussi immédiatement le Créateur avec la créature. Cette introduction du document montre la nature de la personne humaine, son incomparable dignité, et donc toute réflexion morale va essayer de rendre compte d'une juste conception de la nature de la personne humaine, mais dans sa dimension corporelle. Et c'est là que petit à petit, je vais rejoindre aussi le thème du séminaire. Cette nature de la personne et cette dignité de la personne humaine, comment en parler? Dans le document, on parle de l'homme comme d'une réalité unifiée. Je cite l'introduction numéro 3, la page 108. Cette nature est en même temps corporelle et spirituelle. C'est dans des mots un peu plus compliqués. En raison de son union substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions. Il ne peut pas être évalué de la même manière que le corps des animaux, mais il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui. Donc qui dit personne dit unité corps-âme. On peut parler aussi d'une unité cœur-corps-esprit ou d'une unité corps-liberté. Mais c'est chaque fois dans ce document et dans l'autre, dans la pensée de l'Église, et dans cette réflexion de type personnaliste, ce qui est cherché, c'est l'unité des composants de l'homme. C'est vrai pour l'adulte, pour chacun de nous, mais c'est vrai aussi pour l'embryon humain. On dira qu'une personne est visible d'abord en son corps, le corps qui dit qui elle est, et qui demande qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est, un corps personnel. Et donc, par suite, que ce soit en bioéthique ou ailleurs, toute intervention sur le corps humain ne touche pas seulement les tissus, les organes, les fonctions, mais elle engage, cette intervention, la personne même. Donc, elle est éthique. Le corps est un lieu éthique, est un lieu d'appel à la responsabilité à faire le bien. Si je cite Jean-Paul II, pour marquer cette unité, il s'exprimait à l'Association médicale mondiale, il disait ceci: « Chaque personne humaine, dans sa singularité absolument unique, n'est pas constituée seulement par son esprit, mais par son corps. Ainsi, dans le corps et par le corps, on touche la personne humaine dans sa réalité concrète. Respecter la dignité de l'homme revient par conséquent à sauvegarder cette identité de l'homme, en latin on dit « corpore et anima unus ». Et il cite le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 14, paragraphe 1. Donc, cela suppose une vraie relation entre ce qu'est l'être humain et son corps. L'identité de l'homme, l'identité personnelle de l'homme, ne peut pas faire abstraction d'un lien ontologique, ça veut dire d'un lien substantiel, ça veut dire d'un lien de base qui touche l'être de l'homme. Eh bien, ce lien-là doit être fait avec le corps. On ne voit pas une personne sans son corps. On ne la dissocie pas, on ne la dissèque pas. Autrement dit, quand ce petit document, dans son introduction de 5 numéros, nous donne une anthropologie, il nous dit des choses importantes, c'est que le corps humain n'est pas extérieur à la personne elle-même et que la personne s'exprime, s'explicite, se manifeste à travers le corps. Autrement dit, que le corps est un langage. Il dit quelque chose de la personne se dit dans le corps. Et le document rappelle donc que, en ce sens, il y a une dignité de la personne humaine. Les critères de jugement seront, pour la traiter, le respect, la défense, la promotion de l'homme et, comprenons bien, son droit fondamental et primaire à la vie. Ce que je traduis souvent en disant que le droit à la vie, c'est un droit racine. Sans la vie, aucune autre valeur, aucun autre droit ne peut être défendu et promu. Il faut qu'on vive pour partager, il faut qu'on vive pour être joyeux, il faut qu'on vive pour aimer. Donc le droit primaire et fondamental appartient à la personne, à sa dignité personnelle. Dotée d'une âme spirituelle, dit le document, de responsabilité morale et... Ça, c'est un argument de type théologique, appelé à la communion bienheureuse avec Dieu. Quand on parle de l'origine de la vie et du statut des embryons et de ce qui leur arrive souvent, quand ils s'en vont ou qu'ils sont abandonnés ou qu'ils meurent, eh bien, cette vision béatifique propre à chaque personne qui nous est promise, eh bien, elle est promise à toute personne, même aux petits. Donc dans ce document, l'Église va réagir contre une chosification, une réification de tout le corps. Donc elle va dire que la science et la technique doivent être non pas au service d'elle-même, mais au service de la personne humaine intégrale, de son bien véritable et intégral, pour correspondre à la volonté de Dieu. Ainsi, l'argumentation, ça ne va pas dire... C'est une intervention artificielle, donc c'est mauvais. Non, c'est une intervention artificielle, ça peut être bon. Mais si c'est fait sur la procréation et l'origine de la vie humaine, il faut pouvoir l'évaluer moralement par référence au concept de dignité et par référence au concept de personne. Personne humaine, appelée à se développer, appelée à être reconnue, appelée aussi à la communion divine, et au don de la vie. Donc la dignité de la personne humaine et son inviolabilité, le fait qu'on ne puisse pas en disposer n'importe comment, s'exprime dans l'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain innocent depuis le moment de la conception jusqu'à la mort. Voilà, une sorte de principe personnaliste, moral qui est exprimé. Il y a donc, dit le document, un ordre éthique. Donné à elle-même, la personne va s'accomplir, mais il faut parfois du temps, il faut respecter la croissance du corps, elle va s'accomplir dans le libre don d'elle-même. Et alors pour les philosophes qui sont parmi nous, c'est un peu étrange ce document et ces problèmes de borderline, quoi, de cas limite, c'est que d'habitude on dit que l'être précède l'agir. Ces deux verbes, l'être précède l'agir. Mais souvent, et c'est le cas dans ces observations et ces réflexions sur l'origine de l'être humain, Ici, on va assister à ce fait-ci. L'agir confirme l'être qui s'exerce dans l'histoire. Être et agir, vous voyez? On dit l'être précède l'agir. Mais ici, dans l'évaluation morale, on va dire que l'agir va confirmer l'être. Les deux propositions sont vraies. Je donne un petit exemple. Si on laisse un embryon humain grandir dans le sein maternel, donc l'action bonne que l'on fait de ne pas avorter, par exemple, ou de prendre soin de cet embryon, si on est la maman, et de l'accoucher, de le porter, de l'accoucher, etc., va permettre à tout le monde, un jour, de voir que c'était non seulement un embryon, que c'était un embryon humain, mais aussi que c'était un enfant. Donc, dans l'action, va nous dire qui il est, va nous permettre de le reconnaître dans son être profond. Vous allez me dire que si j'ai un bon appareil qui voit à l'intérieur du corps, je peux peut-être découvrir un peu plus tôt que ça son être, en le voyant bouger, nager, sucer son pouce, etc. C'est vrai. Mais ça explicite cette maxime qui dit « L'agir confirme l'être ». Et dans les textes où je vais expliciter, il est dit qu'il faut respecter l'embryon humain dès les premiers instants de son existence. Il y a un mode d'agir qui est donné, une prudence, une demande d'action et de protection de l'embryon, un appel éthique qui semble considérablement précéder l'affirmation de qui est l'embryon. C'est ça le problème. Si vous croyez ou si vous pensez, vous argumentez directement que pour dire que l'embryon est une personne, ben normalement, ça découle de source. Vous allez le respecter comme une personne, normalement. Mais historiquement, c'est venu autrement. C'est qu'on se demande si ce tas cellulaire, la morula, si le zygote, c'est vraiment une personne comme nous. S'il a vraiment le même statut. Et les juristes, si vous vous souvenez du père Xavier Dijon, ont dit que la personnalité juridique n'arrive qu'à partir de la naissance. Avant, ce n'est pas possible de la reconnaître. Alors, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que ontologiquement, c'est-à-dire dans son être, éthéologiquement, on peut dire quelque chose de plus que le droit, qui nous permettrait peut-être d'éclairer le droit ou de le fortifier, puisque le droit nous aide à respecter aussi les personnes. Le critère moral essentiel de donovité, je vais l'énoncer, mais la question est la suivante, n'est-il donc pas une affirmation implicite du statut personnel de l'embryon ? Donovité, donc ce petit document, dit qu'il faut respecter de manière inconditionnelle tout être humain. Mais le document ne se prononce pas sur le caractère personnel de l'embryon dès le premier instant de son existence. Le langage, en tout cas dans Donovité, c'est d'utiliser le terme embryon, qui est un terme emprunté à la science. Mais on le qualifie embryon humain. Et 26 ans après, dans un autre document, on va changer, on va plus employer le mot embryon comme substantif, on va le prendre comme adjectif, corps embryonnaire. Si vous avez compris cette nuance et ce glissement de sens, vous verrez en quoi vous voyez peut-être en quoi la réflexion de l'Église avance lentement mais sûrement sur le statut de l'embryon. Quelle est l'argumentation ? Je me tiens encore à Donovité. Dès que l'ovule est fécondé, dit le texte, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père, ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même, qui se développe déjà dans la trompe, avant de se nidifier, avant de s'accrocher à la paroi utérine, il se développe déjà de manière autonome, et parfois la maman ne sait pas tout de suite qu'elle est enceinte. À cette évidence, alors, il y a une affirmation de type philosophique, il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme, cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Donc, il y a une aventure humaine dont chacune des grandes capacités va demander du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Ce qui est valable pour l'embryon est valable pour nous aussi. Et alors le document se pose la question du discernement rationnel d'une présence personnelle. Dans une deuxième étape, après avoir affirmé ce que je viens de dire, il se dit, mais sous forme de question, comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine ? Sous-entendu, vous répondez oui ou non. Si c'était en latin, on saurait tout de suite la réponse. C'est « num » ou « nonne ». Voilà. Mais les termes utilisés dans le document sont encore les suivants. « Fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence. »« Zygote »,« être humain innocent ». C'est des titres pour l'embryon. Mais ce qu'on peut quand même déjà dire, c'est que les références au mot « personne », au personnalisme, forment la trame de l'instruction d'un homme vitae. Donc l'horizon est personnel. La question reste comme sans réponse, mais avec une indication. Comment un individu humain de l'espèce humaine ne serait-il pas une personne humaine ? Donc, il y a des conclusions scientifiques, il y a une question de type philosophique, et les formulations restent prudentes, nuancées, même si elles pointent, malgré le vocabulaire qui est strictement scientifique, elles pointent ces formulations vers le caractère éminemment personnel de l'être humain nouvellement conçu. Être humain nouvellement conçu. C'est long à prononcer pour dire l'embryon. Mais voilà. Le critère donc qui est donné par Donum Vitae comme un appel éthique, comme une phrase un peu litanique, c'est l'être humain doit être respecté comme une personne dès le premier instant de son existence. Alors, j'insiste parce que l'être humain doit être respecté comme une personne. En français, c'est un comparatif. Ça ne veut pas dire une égalité et une identité. Mais en français, ça peut vouloir dire ceci. En allemand et en flamand, ce n'est pas la même chose. Mais en français, on peut signifier ceci comme une personne, entre parenthèses, qu'il est. Et c'est ça le flou qui reste encore dans le document. Si vous dites que l'Église affirme que l'embryon est une personne, ce n'est pas juste. C'est une interprétation. L'Église ne va pas jusque-là. Elle parle de l'être humain, elle parle de l'individu. Elle pose la question de savoir est-ce que cet individu, tout individu, ne pourrait pas être une personne, non seulement d'espèce humaine, mais une personne. Mais on peut l'interpréter comme une personne au sens comparatif, ou bien se dire déjà, tiens, ceux qui ont écrit auront peut-être, pour certains, dans la tête ou dans le cœur, le fait que c'est comme une personne qu'il est. Mais la règle morale, c'est de le respecter comme une personne. Cette règle, c'est l'agir. Et qui va nous dire quoi sur l'être ? Eh bien, c'est un point d'interrogation. C'est la question de ce soir. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que cette affirmation de Donum Vitae fonctionne comme un point d'aboutissement, de clôture, en 1987, voilà ce que dit l'Église, ou bien est-ce que l'Église va aller plus loin, ou les théologiens, ou les mamans, ou les médecins vont pouvoir dire, tiens, c'est pas seulement un point d'aboutissement, mais c'est comme un tremplin vers autre chose, vers un approfondissement de l'aspect personnel de l'embryon. Rappelons ce fait que pour chacun de nous, il y a un temps dans notre vie, un temps embryonnaire, où comme individu, comme être humain, comme personne, à un moment donné, nous avons totalement dépendu du corps d'autrui, du corps de notre maman, parce que personne n'est jusqu'à présent né d'un utérus artificiel, que nous avons totalement dépendu pour notre vie et notre survie d'un ensemble de relations de type personnel, que ce soit le médecin, que ce soit les parents, que ce soit la maman. Donc l'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain dès la conception, ce principe-là ne s'appuie pas directement sur la notion du statut personnel de l'embryon au départ, mais il va peut-être l'évoquer ou l'invoquer à un moment donné. Cette inviolabilité du droit de la personne est un signe peut-être de l'inviolabilité de son être, du caractère personnel de son être. Il est unique et on ne peut pas substituer un embryon à un autre du point de vue de son origine. Il est. Il ne peut pas être un autre. On pourrait réfléchir déjà à ce moment, à partir de cette instruction, et se demander, mais si Dieu, c'est d'un point de vue théologique, si Dieu est créateur, si Dieu est tout-puissant, si Dieu, comme on l'a examiné dans le psaume 139-138, si Dieu nous connaît vraiment de l'intérieur, si Dieu, si on veut lui échapper au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le matin, le soir, si Dieu connaît tout, comment peut-il ne pas connaître, non pas l'infiniment grand, mais l'infiniment petit? Comment penser que le fruit humain de la conception soit étranger à son action et à sa connaissance? Et c'est là que l'argument de Jean-Paul II est repris dans De Novitate, c'est-à-dire, comme l'affirme le Concile, l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Peut-on penser qu'il était absent, qu'il serait absent dès l'origine ou dès le commencement de la vie embryonnaire? Donc, on répond presque instinctivement que la conception et la genèse de l'homme ne répondent pas seulement aux lois de la biologie, au fait qu'un spermatozoïde puisse entrer dans un ovocyte, mais correspond aussi à la volonté créatrice de Dieu, que Dieu a quelque chose à voir dans le surgissement de la vie embryonnaire, et quand il veut l'homme semblable à lui, ne peut-on pas déjà penser que si cette similarité, ce caractère semblable et cette ressemblance veut dire aussi qu'il est personne au moment de l'acte créateur, puisqu'il est créé pour lui-même et pas comme l'herbe et les feuilles pour être mangé par l'homme et les animaux dans les premiers chapitres de la Genèse. Ainsi, avant d'être reconnu par les autres êtres humains, son père, sa mère, les médecins, l'enfant, ça je prends position, mais l'être nouvellement conçu est déjà connu de Dieu. C'est ce que la doctrine du psaume 139 nous avait souligné. Et le document insiste aussi sur, je vais passer, sur le mode de venue à l'existence de tout être humain. S'il a les caractéristiques personnelles, il faudrait qu'il vienne non pas de manière mécanique, il ne faudrait pas qu'il vienne de manière purement artificielle, il faudrait qu'il vienne non pas comme un cadeau de Saint-Nicolas, il faut que l'embryon vienne à l'intérieur d'un berceau, d'anthropologique, à l'intérieur d'une disposition d'acte, c'est-à-dire d'un acte d'un homme et d'une femme qui s'aiment, donc, d'un homme et d'une femme qui eux-mêmes sont des personnes. Donc si on veut prouver, on veut insister ou trouver le caractère personnel de l'embryon, il faut pouvoir montrer que ce qui convient à l'embryon aussi, ce qui normalement ou naturellement se fait, ou dans le sacrement de mariage est demandé, eh bien, c'est un acte conjugal qui soit respectueux, aimant, libre, conscient d'un homme et d'une femme qui veulent se prêter à l'acte créateur, et qui veulent coopérer avec Dieu pour faire advenir à l'existence un nouvel être humain qui aura les mêmes caractéristiques, pas seulement génétiques que du père et de la mère, mais aussi personnelles. On ne voit pas que ce soit respectable de mettre un embryon humain dans l'utérus d'une vache pour qu'elle le porte. On sent cet hiatus, ce gap des corps, c'est pas respectueux de l'embryon humain et de la nature. On voit aussi que on ne va pas inséminer, on ne va pas mettre un embryon, comment dire, d'oursin ou bien même de chimpanzé dans la matrice d'une jeune maman ou d'une jeune femme. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui n'est pas respectueux, un peu vu par l'absurde, ou par le, mais il y a des gens qui ont essayé de faire ces expériences-là, hein, mais un peu par l'absurde, on voit que le caractère personnel est lié à la liberté personnelle des époux. Donc la signification de l'acte conjugal du corps des époux est toujours personnelle, puisque cet acte n'est pas délégable, cet acte ne peut pas être posé n'importe comment, n'importe où, et donc il dit quelque chose du fruit de l'acte. Le corps de l'embryon, dans le corps maternel, est protégé, aimé, respecté, d'une manière personnelle, charnelle et personnelle. Et si la symbolique des corps personnels n'est plus respectée ni comprise, nous prenons le risque de ne plus comprendre notre propre origine et notre propre fin. C'est le véritable débat de l'utérus artificiel. C'est que, puisque nous avons été cet embryon, nous avons encore accès à la finalité de notre être, à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes personnes à part entière et issues, même parfois à travers des actes imparfaits et de violence, mais nous sommes issus de personnes, nous avons grandi dans un corps personnel. Ce serait autre chose avec un utérus artificiel. Je vous ai expliqué un peu la doctrine de Donum Vitae avec ses enjeux, puis 28 ans plus tard, il y a un autre petit document qui est sorti, comme pour fêter le premier document, mais surtout pour répondre à d'autres questions plus actuelles encore sur la bioéthique, le document qui s'appelle Dignitas Personae. Et dans les deux documents, il y a une question qui est nommée, mais qui n'est pas résolue, et sur laquelle on passe, comme on passe sur un toboggan. C'est la question philosophique de l'animation médiate et immédiate, c'est-à-dire la manière dont l'acte créateur de Dieu infuse l'âme dans le corps. Dans les deux documents, c'est pas qu'on nie ce débat, mais on dit qu'il y a moyen peut-être de s'exprimer autrement. C'est ça peut-être l'enjeu que je voudrais faire découvrir ce soir. Dans Dignitas Personae, il y a, au numéro 4, et une seule fois, il y a une expression qui surgit, et qui est le titre de cet exposé, l'expression « corps embryonnaire ». Lorsqu'on sait le débat dans ce même document, et puis à cause de la science, sur les cellules souches embryonnaires, totipotentes, pluripotentes aussi, le débat à un moment donné sur le clonage, qui fait abstraction justement du corps des époux, qui fait violence au corps embryonnaire, puisqu'on le coupe en deux, ou on le couperait, ou on essaye de le couper en deux. Lorsqu'on pense à l'irréductible relation entre le corps et la personne humaine, le fait que, brusquement, une seule fois, on parle de corps embryonnaire, peut soit nous attirer l'attention, soit on peut passer en disant « c'est pas si important que ça ». C'est le problème, quand on étudie des textes de l'Écriture sainte, d'un mot qu'on retrouve une seule fois dans la Bible ou dans un livre. On dit que c'est un anapax. On le rencontre une seule fois. Alors, ou bien vous estimez que c'est peut-être indicatif, comme quand vous rencontrez une pierre précieuse au bord de la mer, ou bien vous dites que c'est tellement rare qu'on ne sait pas. C'est pas très bien ce que ça veut dire, peut-être c'est une erreur, peut-être que c'est le hasard. Donc, en fait, ce que je vais chercher à montrer, c'est que cet apax n'est pas n'est pas inopportun et permet d'approfondir justement la doctrine de Donovité. Car enfin, la personne peut-elle exister sans son corps? Car enfin, est-ce que ce terme corps embryonnaire ne va pas plus loin que le mot embryon? Le corps humain, si on réfléchit à ce qu'il est, il est un corps avec des caractéristiques bien précises, que j'ai déjà décrites, à l'intérieur d'un corps maternel. Il est un corps, le corps embryonnaire, vulnérable, physique, qui n'est pas encore advenu à toutes ses potentialités, parce que même il peut encore se diviser en deux. Mais il est marqué d'un dynamisme humain qui est purement soumis à des règles biologiques ou plus profond. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, posé ainsi en ces termes, une forme déjà dans ce corps qui le dynamise vers une fin? Est-ce que le corps, comme ça, existe alors que la liberté n'existerait pas? Est-ce que ce corps est interchangeable? On le pressent. Si on utilise cette expression corps embryonnaire, on peut être à un carrefour de signification en disant, comme le père Xavier avait souligné, le je, le tu, le il, est-ce que j'ai un corps? Est-ce que je suis un corps? Est-ce que l'embryon est corps ou a-t-il un corps? Peut-être a-t-il les deux. Est-ce qu'il habite ce corps? Ce corps ou cette matière cellulaire est-elle habitée, pour rejoindre le premier exposé de notre séminaire? Dit autrement, le corps n'est pas seulement une limite. C'est vrai que je peux difficilement sortir de mon corps ou être sur deux chaises, assis sur deux chaises, entre deux chaises, parfois c'est plus... Mais le corps peut être compris non seulement comme une fermeture, une limite, une opacité, une épaisseur, mais le corps peut être compris aussi comme une ouverture, c'est-à-dire il ouvre, le corps biologique l'ouvre au mystère même du corps et de la personne peut-être. Donc, je plaide pour que nous soyons attentifs au langage de l'Église et pour qu'on comprenne la part de vérité que l'expression « corps embryonnaire » contient dans ce nouveau document. Comment, en effet, parler de l'embryon pour fixer son statut? Le gros problème, c'est que quand on utilise un langage, on peut ouvrir ou fermer. Si on n'utilise que le langage technique et scientifique et on dit que le fruit de la conception, on le nomme embryon, embryon, embryon. Je me souviens d'une partie de ma thèse et de quelques pages où le père Chapelle avait corrigé chaque fois que je mettais embryon, il mettait humain, 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 humain. Donc ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que en m'exprimant à travers un seul type de langage, je réduis la réalité. De même, comment peut-on nommer autrement le zygote, le préembryon, l'amas cellulaire, le grumeau, la morula, les cellules embryonnaires totipotentes et multipotentes, le fœtus, l'embryon? Vous voyez, c'est toute une terminologie scientifique qui est admirable et qui décrit des processus. Mais il est difficile aussi de parler comme ça dans la vie ordinaire. Il est rare que je n'ai jamais entendu une maman dire que son zygote allait bien. Parfois son embryon, oui. Mais souvent, elle parle du bébé. Ou bien, parfois les enfants, les parents disent leur fils, leur enfant, déjà au premier stade. Ou bien les petits frères et sœurs parlent du petit bébé frère ou du petit bébé sœur. Il y a d'autres philosophes qui ont parlé, je cite, du grand méconnu. Et Mère Teresa, il se trouve, c'est assez intéressant parce qu'elle unit alors deux types de théologie, la théologie de la libération et la théologie plus classique. Elle parle de l'embryon comme du plus pauvre parmi les pauvres. Elle qui s'occupait plutôt des personnes en fin de vie. L'embryon est le plus pauvre parmi les pauvres. Et donc j'essaie de confirmer, de plaider mon choix ou mon attention attirée par le corps embryonnaire. Et je souligne que le document, justement, de Dignitas Personae, est original parce que le mot embryon n'est plus utilisé comme substantif. Si on va regarder d'autres usages, mais il apparaît toujours, soit sous la forme donc embryonnaire, ou il n'apparaît pas comme substantif. Le substantif, dans l'expression corps embryonnaire, le substantif, c'est le corps. Cela ne signifie pas en philosophie ou en théologie que le corps est une substance en soi, par soi. Le corps, j'évite ce problème, mais il ne faut pas l'approfondir, mais le corps n'est pas une substance en soi, il est une substance par son lien, son unité avec l'âme. Mais la richesse et l'originalité de Dignitas Personae se trouvent dans l'usage du corps embryonnaire. Parce que cette affirmation est au centre d'une grande phrase qui est reliée aussi à une vérité scientifique que je vais vous citer. Le corps, je cite, d'un être humain, dès les premiers stades de son existence, n'est jamais réductible à l'ensemble de ses cellules. Qu'il en ait 16, 38, 24, quand on lui fait un diagnostic préimplantatoire, on a enlevé une cellule, eh bien, le corps humain, dans sa définition large, n'est pas réductible à l'ensemble de ses cellules. Le corps embryonnaire se développe progressivement, dit le texte, selon un programme bien défini, c'est pour rendre compte de l'aspect biologique, mais avec une finalité propre qui se manifeste à la naissance de chaque enfant. Donc, le corps est présenté ici non pas comme un corps physique seulement, ou biologique, mais en tant qu'il est anthropologiquement un des constitutifs de l'être humain. Donc le corps dont on parle, ce n'est pas seulement le biologique, mais ce que symbolise ce biologique, ce qu'il appelle, ce qu'il est comme ouverture. Et c'est vrai que dans la conclusion, je m'excuse, qui dit corps dit liberté un jour, qui dit corps dit conscience un jour, qui dit corps dit un lien avec l'âme, qui dit corps dit probablement un pas vers la définition de l'état personnel de l'embryon humain. Donc le terme corps s'enrichit et oriente à la fois notre intelligence et notre cœur vers ce lien substantiel entre l'âme et le corps. Alors, faut répondre à une objection. Le corps, tel que je le présente, n'est pas une valeur absolue. Nous savons tous que nous pouvons donner notre vie et donner notre corps pour nous défendre ou pour défendre quelqu'un. Il n'y a pas dans ce document comme une hypostasie du corps, une absolutisation des éléments organiques en disant les cellules totipotentes, c'est le nec plus ultra, c'est ça qui compte et c'est ça qui définit l'être humain. Non. Mais ce qui est sous-entendu, c'est que la personne ne se réduit pas aux apparences de son corps. Et ça, je trouve que c'est un principe en bioéthique qui est décisif, que ce soit en fin de vie, ou dans la vie adulte, ou dans la vie d'un enfant, la personne ne se réduit pas aux apparences de son corps. Prenez vos photos de classe, au fur et à mesure que vous avez grandi, et voyez-vous, vous êtes le même. Même si vous avez perdu quelques cheveux, ou bien pris des lunettes, ou changé de vêtements, vous êtes le même. Et le corps aussi ne se réduit pas à l'apparence, l'être humain ne se réduit pas à l'apparence du corps qu'il a, c'est que quand on est amputé, quand on est malade, quand on est en fin de vie, eh bien, la personne n'est pas un légume, elle ne devient pas rien du tout, elle ne devient pas un ensemble fonctionnel d'organes, elle reste une. Donc que le corps dont il est parlé ici est plus que la somme des cellules qui le structurent et qui lui donnent sa forme. Donc le corps dit un tout organisé qui est intérieurement finalisé. C'est une autre manière de parler de l'unité personnelle, c'est une autre manière de parler de la forme, c'est une autre manière de parler de l'âme. Le corps signifie un tout organisé qui est intérieurement finalisé. Ce corps embryonnaire est actif. Dans le texte, il est mis « il se développe » suivant un programme défini. Le verbe utilisé est pronominal. excuse cette petite analyse lexicologique, mais ça signifie quelque chose, c'est comme un petit argument de plus que j'apporte. Ça veut dire qu'il a son autonomie, biologiquement on le dit, mais aussi symboliquement, ça va plus loin. S'il se développe, ça veut dire que intérieurement, il a comme un principe unificateur qui pourrait nous le faire nommer ou appeler non seulement enfant, mais personne justement. Ce n'est pas le code génétique qui est l'unique principe finalisant ou organisateur. Ce n'est pas une structure morphologique, puisque la forme de l'embryon n'apparaît, en tout cas, et son cœur n'apparaît qu'après quelques semaines. Mais avant ça, c'est purement une forme cellulaire. Alors on se dit, tiens, il ne ressemble pas, il n'a pas de tête, il n'a pas de membres comme nous, donc il n'a pas forme humaine, donc il n'est pas comme nous, donc il n'est pas personne. C'est pas juste. Parce que justement, ce corps-là n'est pas réduit aux apparences qu'il donne de lui-même. Donc, cette petite phrase et son contexte nous mettent sur une piste pour parler autrement de fruits de la génération humaine, de constitution du zygote, d'être de l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. Donc, le rapprochement entre le corps embryonnaire et la réalité visée, c'est-à-dire la personne, est éclairant pour énoncer un respect qui lui est dû, bien sûr, depuis le départ, déjà dans Donum Vitae. Il y a des caractères éthiques qui sont réaffirmés dans Dignitas Personae, que je redonne. Le respect de l'embryon humain suppose une vérité, dit Dignitas Personae, je cite, une vérité de caractère ontologique en vertu de laquelle Donum Vitae avait démontré la continuité du développement de l'être humain sur la base de solides connaissances scientifiques. Je continue la citation qui est importante, c'est le nœud de l'argumentation. Si l'instruction Donum Vitae n'a pas défini l'embryon comme personne, afin de ne pas s'engager expressément dans une affirmation de nature philosophique, elle a cependant relevé qu'il existe un lien intrinsèque, donc à l'intérieur, entre la dimension ontologique et la valeur spécifique de chaque être humain. Même si la présence de l'âme spirituelle ne peut être détectée par aucune observation de données expérimentales, les conclusions scientifiques elles-mêmes au sujet de l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d'une vie humaine. Comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine ? En reprenant la question de Donum Vitae et en la faisant précéder d'une argumentation de type personnel, Dignitas Personae va plus loin, me semble-t-il, et s'approche d'une définition personnelle de l'embryon. L'embryon humain a donc dès le commencement la dignité propre à la personne. C'est une affirmation incroyable. C'est plus comme une personne. Donc je cite Dignitas Personae. L'embryon humain a dès le commencement la dignité propre à la personne. Donc Dignitas Personae invite au respect. Donc il faut agir en respectant, mais je crois qu'il va plus loin dans le couple, le binôme agir-être, mais il invite ce document à l'affirmation du caractère personnel de l'être humain en parlant du corps embryonnaire. Et j'ai encore un peu de temps, mais un des arguments supplémentaires qui arrive, c'est un argument strictement de type théologique, c'est de montrer ce dont on a parlé hier dans le débat, c'est de montrer que le statut de l'être humain en son corps est différent dès le moment où le Verbe de Dieu, le Logos, s'est incarné. Le mystère de Noël, c'est pas seulement un petit bébé, hein. Je dis, c'est pas romantique ni sentimental. Ça veut dire que l'absolu est entré dans le relatif. Ça veut dire que Dieu Tout-Puissant est entré dans l'histoire. Ça veut dire que le Logos, dans le Fils de Dieu, s'est uni à toute humanité. Et donc, dans Dignitas Personae, il est dit, par le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu a confirmé la dignité du corps et de l'âme constitutif de l'être humain. il insiste ce document, le Christ n'a pas dédaigné le corps, il en a pleinement révélé le sens et la valeur. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Donc si on parle de corps embryonnaire dans ce contexte du Logos qui s'incarne, on voit que le Christ confère à tout corps humain un statut nouveau, ceci pour le théologien, le croyant. Dignitas personae nous indique de manière discrète un chemin, me semble-t-il, pour discerner dans chaque embryon qui ressemble au Christ, qui est associé au Logos qui s'est incarné, pour distinguer dans chaque embryon humain les traits de sa personne. Car, comme dit saint Jean, au chapitre 1, verset 12, « Nous pouvons devenir fils de Dieu, participant de la nature divine. » Si nous pouvons le devenir, si nous pouvons appartenir au corps du Christ, vous voyez que c'est un autre type d'argumentation, hein, c'est parce que nous ne sommes pas étrangers au corps du Christ, c'est parce que nous sommes dans le corps du Christ, c'est parce que lui est uni à notre humanité de chair et nous à son humanité de chair. Il y a comme un phénomène d'inclusion réciproque, sauf que lui est Dieu et nous ne sommes pas. Et donc c'est lui, la seconde personne de la Trinité, est dans la chair humaine, eh bien, nous pouvons penser, affirmer, croire, ce trois vers différents, que tout embryon humain, tout corps embryonnaire, est incorporé au corps du Christ, qui est entré dans l'histoire. Vous voyez, ça, c'est un argument qui ne passe pas chez les biologistes, enfin, au sens strict du terme. C'est un argument de type biologique. Et je termine en donnant une autre position sur ce point. Donc vous voyez que j'ai insisté sur les caractères personnels du corps embryonnaire, les traits personnels qui nous sont donnés. À mon avis, c'est pas terminé. L'affirmation est, me semble-t-il, est cohérente, mais elle mérite peut-être encore d'autres clartés. On verra dans quelques années. Par contre, j'ai insisté sur le mot origine par l'acte conjugal, origine par l'acte créateur, et j'ai fait un peu abstraction d'une autre problématique, mais qui est justement celle de l'animation immédiate et médiate, c'est quand cela se passe-t-il? C'est pas la question de Marie. Marie dit comment cela se passera-t-il? Donc ce n'est pas l'instant T mathématique de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte qui m'intéresse ou qui, à mon avis, définit l'aspect personnel de l'embryon. C'est ce que je peux affirmer, c'est qu'en son origine, il vient de, ou il devrait venir de deux actes personnels, de deux personnes qui posent un acte personnel, libre, conscient et plein d'amour, et qu'il vient aussi d'un acte créateur de Dieu. Donc, d'une certaine manière, je prends position dans ce domaine-là. Je dois un peu terminer, mais je voudrais faire un petit dessin pour terminer, pour engager peut-être le débat, et montrer un des enjeux. Si vous prenez un homme et une femme qui s'aiment, on va parler d'un époux et d'une épouse. Normalement, personne ne discute quand ils se marient à la mairie ou à la maison communale le caractère personnel des époux. Ils ont un corps et plusieurs types de cellules. Ils ont des cellules sexuelles, spermatozoïdes et l'ovocytes qui appartiennent à leur corps, qui font corps avec leur corps, qui définissent leur masculinité et leur féminité. Je vais prendre d'abord une première affirmation. Quand on dit que Dieu est créateur, au moment où l'homme et la femme s'unissent, ça veut dire que Dieu, qui est Dieu, mais qui est partout présent et en tout lieu, disait l'ancien petit catéchisme, Dieu est à l'intérieur des actes des époux. Sans qu'on puisse le filmer, sans qu'on puisse l'imaginer, mais quand un homme fait le bien, une femme fait le bien, quand vous serrez la main joyeusement à un copain, eh bien Dieu est à l'intérieur de l'acte. Il est créateur parce qu'il soutient dans l'être tout homme et toute femme qui fait le bien, et même s'il n'approuve pas, quand on fait le mal, il reste encore présent. Donc il est intérieur à l'acte conjugal. Il ne survient pas comme par l'extérieur, comme pour ennuyer les époux dans leur intimité. Il est dans leur intimité propre. Et a fortiori, s'ils sont unis sacramentellement, ils représentent l'un pour l'autre le corps du Christ. Donc, quand on dit que Dieu est créateur, et ici, dans une terminologie de l'embryon, ou bien de notre enfant, ou de l'enfant embryonnaire, c'est parce que Dieu est à l'intérieur de l'acte même des époux. Mais, et c'est tout le débat de ce petit exposé, nous parlons de la vie humaine en divers termes. On dit vie humaine à respecter, on parle d'être humain, d'embryon, d'individu, de zygote, de cellules souches, etc., etc. Et tout cela, on peut parler aussi du corps. Il y a un corps cellulaire. Alors, dès le moment où on dit, je vais dire deux choses, l'intérêt de parler de corps embryonnaire, c'est que ça ouvre la réflexion sans fermer à la réalité scientifique et à l'observation, mais ça ouvre la réflexion qui dit corps embryonnaire, dit que je pense peut-être au corps vivant et à ce qu'il informe à l'âme. Je pense à sa liberté, comment elle grandit. Je pense à sa conscience. Je pense à son cœur, mais pas à son cœur matériel qui commence à battre très tôt, mais à son cœur profond. Et donc, on est avec des poteaux indicateurs qui nous pousse à parler de personnes aussi. Donc la question du langage est une question qui ouvre ou qui ferme à la réalité profonde de l'être embryonnaire, de l'enfant nouvellement conçu, du pauvre parmi les pauvres, etc. Alors je termine en disant que l'acte créateur de Dieu, c'est à l'intérieur de l'acte des époux, mais ce qui est affirmé depuis toujours, c'est que personne ne vient à l'existence sans avoir été voulu par Dieu. Et la vie est sacrée parce que elle est l'expression d'une relation immédiate entre Dieu et chacune de ses créatures. Et donc Dieu crée aussi en touchant. Toucher, c'est dans, comme dans la Sixtine, comme dans du doigt, comme quand l'homme est son créateur. Dieu touche le corps embryonnaire, c'est-à-dire que Dieu a besoin d'un corps qui existe, et dans le même temps de l'existence du corps, il donne corps à cette personne. C'est-à-dire, dans un autre langage plus classique, seul Dieu peut infuser l'âme dans un corps embryonnaire. Ce ne sont pas les parents qui le font. Ça ne veut pas dire que les parents sont en dehors de l'acte créateur, non, c'est pour ça qu'ils sont appelés procréateurs ou co-créateurs, selon Familiaris Consortium. Mais donc, il n'y a pas de no man's land où Dieu ne serait pas. Il n'y a pas une zone d'absence où sa présence ne serait pas. Rien n'échappe à Dieu, psaume 139 de nouveau. Pas d'une manière carcérale, castratrice, mais d'une manière aimante, Dieu est au cœur de tout corps, le corps des époux qui s'unissent et le corps embryonnaire qui en surgit. Je vous laisse vous reposer un tout petit peu. Voilà.